Palas et Chéri Bibi, chapitre 19. Une mauvaise nuit suivie de mauvais jours. Didier trouva au coin de la rue les deux femmes affolées. Il les rassura d'une voix altérée. L'homme s'était enfui à son approche. Monsieur et Madame d'Aumont prirent tout de suite congé de Gisèle, qui suppliait le capitaine de lui pardonner sa conduite stupide. Dans le taxi de luxe qui les ramenait au Cap Ferrat, Didier et Françoise ne parlèrent guère. La jeune femme était désolée. Elle pensait que son mari lui en voulait un peu des quelques observations qu'elle lui avait faites à propos de sa générosité trop vive. Elle lui prit la main. Elle fut étonnée et même inquiète de la sentir toute glacée. « Oh mon Dieu, comme tu as froid! Tu es mal, mon chéri !» « Non, non, je t'affirme, je suis très bien. » Elle lui passa une main sur le front. Il était couvert d'une sueur glacée. Elle s'effraya. « Tu as certainement quelque chose, mais parle donc. Pourquoi ne parles-tu pas? Je ne t'ai jamais vu dans un état pareil. » Il essaya de la plaisanter, mais sa voix était toute changée. Elle se mit à pleurer. « Je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas ce que tu as. « Tu me caches quelque chose !» Il la prit dans ses bras et il l'embrassa avec une passion si subite qu'elle fut loin d'en être rassurée. « Ciel, fit-elle, toi aussi tu pleures ?»« Je pleure parce que je vois ton chagrin, ton inexplicable chagrin. Tu sais bien que je t'adore, Françoise. »« Oh oui, oui, dis-moi cela, dis-moi cela. »« Mon amour, est-ce que tu en doutes ?» Je serais morte si j'en avais douté, mais dis-le-moi tout de même, c'est si bon. Prends-moi encore dans tes bras, embrasse-moi, embrasse-moi, pleure encore avec moi, c'est si bon. Nous sommes fous, nous ne savons pas pourquoi nous pleurons, nous nous conduisons comme des enfants, c'est honteux. Mon amour, alors c'est vrai, tu ne me caches rien, tu ne l'as pas vu ce sale individu? « Mais non, à peine. Il fuyait littéralement. Je l'ai engagé à ne plus revenir dans le quartier. Et c'est tout, n'en parlons plus. »« Non, non, n'en parlons plus. » Ils n'en parlèrent plus. Ils ne parlèrent même plus du tout, jusqu'à leur arrivée à la villa. Alors, quand ils furent chez eux, elle lui dit « Écoute, mon chéri, laisse-toi soigner. Tout à l'heure, tu étais glacé. » « Maintenant tes mains sont brûlantes, tu as encore la fièvre. Il y a trop peu de temps que tu es remis de tes blessures, et nous nous conduisons comme des imprudents. Tu auras attrapé froid en sortant de chez Madame Derlan. Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse donc les portes, le domestique les fermera. » Oui, il se surprit poussant les verrous des portes lui-même, comme un enfant qui a peur. Et cependant il était redevenu un peu plus calme. Il avait tant besoin de douter. Il voulait douter encore. Et il avait peut-être mal vu. Car enfin, cela avait été si rapide, cette apparition d'une figure dans la lueur d'un bec de gaz. Et pas même une figure, un front, des yeux, c'était tout. Était-ce suffisant pour être sûr qu'il s'était heurté aux Parisiens? Certainement non. Il fallait compter avec le jeu des ressemblances, aussi avec son propre état d'esprit, toujours prêt à croire au danger, à se l'imaginer tout proche. Le Parisien à Nice! Non, non, ce n'était pas possible. Le bagne l'avait repris. Cela avait été annoncé dans les journaux. Et puis, si le Parisien avait été à Nice, il eût passé son temps à poursuivre un autre gibier que Gisèle. Le capitaine d'Aumont en saurait quelque chose. Ainsi se raisonnait-il. La tendresse de Françoise, les soins inquiets dont elle l'entoura, l'attendrirent et le détendirent. Ils étaient si heureux, si tranquilles dans leur petit coin. Il y avait une telle paix autour d'eux. Non, non, il ne croyait plus à son malheur. Il fut bien sage, prit son grog, se laissa dorloter, brisé par une émotion si nouvelle, accablé physiquement et moralement, s'endormit. Françoise, elle, ne dormait pas. Elle écoutait cette respiration oppressée. elle épiait ce sommeil douloureux à côté d'elle. Soulevée sur son coude, elle se penchait avec une angoisse grandissante et qui lui serrait le cœur à l'étouffer sur cette figure adorée qui souffrait d'un songe inconnu. Quelles images redoutables passaient sous ses paupières closes pour qu'un pareil soupir gonflât cette poitrine haletante. Elle n'avait jamais regardé dormir son mari. C'était effrayant. Et puis, elle lui trouva soudain une figure qu'elle ne connaissait pas et qui l'épouvantait. Des rides qu'elle n'avait jamais remarquées creusaient sur le front, aux tempes, au coin des lèvres, des sillons profonds. Cette chair qu'elle avait vue au repos, si noble, si apaisée sous la domination d'une âme forte et brave, était ravagée comme si l'esprit de la peur s'était emparé d'elle, profitant de ce que la sentinelle ne veillait plus. Il lui fut impossible de rester plus longtemps auprès de cette figure de martyr qu'elle ignorait, et elle réveilla Didier pour revoir l'autre visage, celui qu'elle avait épousé. Didier poussa un rauque gémissement et ouvrit sur elle des yeux hagards. À la lumière falote de la veilleuse, elle le vit sortir de son cauchemar comme un nageur qui revient au niveau des eaux et qui peut enfin reprendre sa respiration. « Didier, Didier, qu'as-tu? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Françoise !» Alors la figure se détendit. Les yeux furent habités à nouveau par la douce flamme qui les éclairait chaque fois que son regard se posait sur elle. « Oh, ma chérie, je viens de faire un rêve épouvantable. »« Oui, oui, épouvantable, et je t'ai réveillée. »« Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit ?»« Mais rien, tu souffrais, tu gémissais, tu soupirais affreusement. » La douce voix de Françoise semblait chasser définitivement les ombres atroces de la nuit. « Mais à quoi donc rêvais-tu ainsi ? » demanda-t-elle. « Ma chérie, je rêvais au plus grand malheur du monde. Je rêvais que tu ne m'aimais plus. »« Oh, mon Didier !» Elle le prit dans ses bras, lui mit sa tête sur sa poitrine. « Écoute mon cœur !» fit-elle. Ils l'écoutèrent tous deux en silence. Ce silence, Didier ne le rompit point, et il simula de céder à un sommeil doux et réparateur. Mais il ne dormait point. Il se défendait de dormir. Il redoutait la trahison des songes. Elle aussi ferma les yeux et le trompa, et il crut vraiment qu'elle dormait, mais elle savait qu'il ne dormait pas. Il se mentait pour la première fois dans les bras l'un de l'autre. Son sein nu supportait ce mensonge. Didier, comme un patient qui cherche le coin où s'étendre pour y moins souffrir, faisait reposer là son secret, et elle ne douta point dès lors que ce secret ne fût digne d'un pareil refuge. Avec un être comme Didier, il ne pouvait s'agir, en cette cruelle hypothèse d'un secret qui faisait à cet homme aux côtés d'une femme aimée de si terribles nuits, que d'un malheur qu'il avait le devoir de cacher, mais dont elle n'aurait pas à rougir pour lui si elle l'apprenait. Depuis la conduite étrange de Didier au début de ce qu'elle pouvait appeler leur fiançailles, elle avait toujours pensé qu'il y avait eu dans la vie de Monsieur Daumont quelque mystère. Elle persistait à imaginer une ancienne histoire de femme, de méchante femme, naturellement, qui aurait autrefois abusé de la bonté de Didier et qui, maintenant encore, essaierait de le faire vilainement chanter. Que ce fût cela ou autre chose, elle était sûre que, de toute façon, Didier était une victime. Le lendemain matin, à la première heure, M. Daumont était à Nice. Il attendit le passage de Gisèle au coin de la rue d'Angleterre et de la rue Bardin, en faisant les 100 pas, devant un établissement d'hygiène électrique d'où le concierge considérait ses allées et venues avec ahurissement. Didier savait que Gisèle, qui devait être à 9 heures au magasin, passerait par là. Et comme il ne tenait point à ce que les sœurs Violette connussent sa démarche après ce qui s'était passé la veille, il attendit le mannequin dans la rue. Une visite chez elle aurait été, à cette heure, inexplicable. D'autre part, il avait espéré que, poussé par quelques besoins du ménage, Gisèle descendrait dans le quartier de très bonne heure. Au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, son impatience faisait peine à voir. Le concierge de l'établissement d'hygiène le plaignit. Ce brave homme arrêta quelques clients qui entraient pour leur montrer le monsieur sur le trottoir. « Si vous voulez voir un monsieur à qui on a posé un joli lapin. » À 9h15, une honorable dame qui venait faire dans l'établissement sa haute fréquence quotidienne, dans le dessein évident de se rajeunir autant que possible, descendit de son auto, et, dans le moment qu'elle allait disparaître dans le vestibule, s'arrêta, complètement médusée. Elle venait d'apercevoir M. Daumont courant à Gisèle et l'entraînant rapidement dans une conversation des plus animées. « Ah bien, Madame Derlan, ça n'est pas trop tôt qu'elle arrive, la donzelle !» exprima le concierge. « Pensez, voilà plus d'une heure que l'autre poirote sur le trottoir. »«
Ce n'est pas possible.
Je vous dis qu'il était là à 7h30. On peut dire qu'il est pincé. » Madame Derlan était outrée. « Le misérable » murmura-t-elle. « Et moi qui croyais plaisanter ? Pauvre Françoise !» Pendant ce temps, M. Daumont avait obtenu quelques précisions assez rassurantes relativement à la personnalité de l'individu qui pourchassait Gisèle. Celle-ci avait été bien étonnée de trouver ce matin-là le capitaine sur son chemin, et dès qu'elle avait su ce qui l'amenait, elle avait pensé tout de suite qu'il s'était passé la veille au soir entre les deux hommes une scène assez brutale à laquelle l'officier voulait donner des suites. Effrayée de cette perspective, elle avait supplié M. Daumont d'oublier l'incident. Mais celui-ci s'était exprimé dans des termes tels pour connaître toute la vérité qu'elle avait fini par dire le peu qu'elle savait, c'est-à-dire que ce monsieur était un ami d'une cliente de Mademoiselle Violette, qu'elle l'avait vu pour la première fois à Paris, où il était, paraît-il, très répandu dans les milieux artistiques et mondains, qu'il lui avait offert de la faire entrer au théâtre, où il comptait beaucoup d'amis, et qu'il s'appelait Monsieur de Saint-Yne. Quand il quitta Gisèle, Didier se disait « Je suis fou, j'ai rêvé !» Une heure plus tard, à la réflexion, il ne restait plus rien de ce qu'il appelait son imagination de la veille. Seulement, il avait décidé que pour échapper à un milieu, à une ambiance qui ne lui permettait plus de goûter comme il convenait les dernières heures précieuses d'un congé de convalescence, doucement éclairé par une lune de miel, il allait faire, avec Françoise, un petit voyage, au cours duquel il espérait bien ne rencontrer ni Nina Noah, ni l'ombre du Parisien. Il mettait sur le compte de la réapparition de la danseuse à son horizon le trouble momentané dans lequel il était plongé. Dès lors, quitter les lieux qu'elle fréquentait devenait son plus cher programme. Hanté par cette idée, il se dirigea vers les bâtiments où, depuis la guerre, se trouvait installé le service des sauf-conduits et des passeports. Il traversait alors, ayant coupé au plus court, un coin de la vieille ville. Là, les rues sont étroites et tortueuses. Il se trouva arrêté devant une boutique basse de marchands de vieux habits et de tapis d'occasion à l'enseigne de « Monsieur Toulouse ». Pourquoi cette enseigne le frappa-t-elle ? Pourquoi en retint-il le nom ? Plus tard, quand il se le demanda, il ne put rien se répondre, sinon qu'il y avait déjà, au fond obscur de lui-même, quelque chose qui savait que cette enseigne compterait dans sa vie. Enfin, la rue fut dégagée par le déplacement d'une petite voiture à bras chargée de légumes. Quand cette voiturette se fut déplacée, elle découvrit une espèce de larve humaine qui rasait les murs et qui pénétra aussitôt dans un corridor sombre adjacent à la boutique de M. Toulouse. Didier s'appuya au mur. Il avait reconnu Fric-Frac. Il trouva la force de s'enfuir du quartier. Tout son être, du reste, lui criait « Fuis !» Ah ! Se sauver avec Françoise au bout du monde ! Il avait une figure de spectre quand il entra dans la salle où l'on délivrait les permis. Il était à peu près sûr que Fric Frac ne l'avait point vu. Il se donna le temps de retrouver sa respiration, sa voix. Quand il s'avança vers la table centrale, derrière laquelle les employés répondaient au public, il aperçut alors, debout tenant des papiers à la main, un homme en longue redingote flottante qui le dévisageait fixement. Didier tourna sur lui-même, il devenait fou. Il ne sut jamais comment il avait pu se retrouver dehors, comment il avait eu la force de se jeter dans une voiture et de crier son adresse. Il avait reconnu le bêcheur. Chapitre 20. Coup d'œil sur l'abîme. Quand Didier rentra chez lui, il trouva une femme très inquiète. « Comment es-tu sortie de si bonne heure sans me prévenir ?»«
Tu dormais, je n'ai pas voulu te réveiller. » »«
Comme tu es pâle, tu es encore souffrant. Didier, Didier, tu me caches quelque chose. Tu as reçu une mauvaise nouvelle. » « Mais non, ma chérie, je t'assure. » La femme de chambre apporta une lettre pour monsieur. Celui-ci la prit et s'enferma dans le bureau, disant qu'il allait se débarrasser d'une longue correspondance en retard. Évidemment, il voulait rester seul. Elle comprit cela, elle n'insista pas. Elle était épouvantée. Lui, dans le bureau, s'était mis la tête dans les mains et essayait de réfléchir. Il n'y parvenait point. Le coup avait été trop rude. Il en était comme assommé. Sur la table, il fixait stupidement la lettre sans l'ouvrir. Elle venait de Nice. Soudain, il s'en empara fébrilement et la décacheta en tremblant. Il s'y prit à plusieurs fois pour lire ceci. « Mon cher capitaine, je crois qu'il est absolument nécessaire que nous ayons une entrevue. Rassurez-vous, je ne vous tiens pas rancune de notre dernière rencontre. Aussitôt que vous m'avez eu reconnue, vous vous êtes conduit tout à fait convenablement. Dès lors, j'aurais pu engager l'entretien, mais une conversation en pleine rue, fût-ce à 10 heures du soir, n'est jamais bien sûre, et autant que possible, il est préférable que ce que nous avons à nous dire reste entre nous. Mes amis sont ici. Je ne vous cache pas qu'eux aussi vous reverront avec joie. C'est chez l'un d'eux, M. Toulouse, marchand d'habits au coin de la rue Basse, dans la vieille ville, que je vous donne rendez-vous à 5 heures. Nous vous attendrons jusqu'à 6 heures. Après quoi, nous serons en droit de penser que notre lettre s'est égarée et nous en adresserons une autre à Madame Daumont, en prenant cette fois les précautions nécessaires pour qu'elle arrive à destination. » La lettre était signée du Parisien. Chose singulière, cette lettre soulagea Didier. Il allait voir le danger en face. Il allait savoir exactement ce qu'il pouvait craindre et ce qu'il pouvait espérer, s'il pouvait encore vivre et combien de temps. Le danger qu'il pouvait courir en se rendant là-bas, il n'y songeait point. Ou l'on pourrait s'entendre, ou il pourrait le tuer. Il lui rendrait service. Quand il eut arrêté sa ligne de conduite, il se trouva momentanément assez fort pour mentir par ses paroles, son visage et par son air à Françoise. Il alla la retrouver, lui déclara qu'il se sentait tout à fait mieux, qu'il avait eu depuis la veille un de ces accès de fièvre paludéenne dont il se croyait débarrassé depuis longtemps, et qu'il tenait d'un séjour qu'il avait fait quelques années auparavant dans les marécages de la brousse tropicale. Ces propos ne calmèrent point l'inquiétude de la jeune femme. Dans l'après-midi, elle se glissa dans le corridor jusqu'à la pièce qui servait à son mari de bureau et qui avait une porte vitrée sur laquelle un rideau était mal tiré. Alors, elle vit Didier qui regardait une enveloppe qu'elle reconnut à un cachet de cire pour être celle qu'elle avait aperçue entre ses mains la veille de son duel. Il tourna un peu la tête. Jamais elle n'avait vu la figure de M. Daumont aussi douloureuse. Hélas, ce n'était point sur son propre sort que le malheureux s'apitoyait alors, mais sur celui de Françoise. sur la destinée qu'il lui avait faite dans un moment de lâcheté amoureuse. Il se traitait de misérable et avait horreur de lui-même. Il s'agissait bien de mourir. Il s'agissait de la sauver de cette honte, elle. Ah oui, il irait à ce rendez-vous. À ce moment, il leva la tête. Il lui avait semblé entendre une voix mystérieuse qui lui soufflait tout bas « N'y va pas !» La fenêtre était ouverte qui donnait sur les jardins. Il crut voir une ombre accrochée à cette fenêtre. Il se souleva, le cœur battant affreusement. « Chéri Bibi ! » Était-ce un rêve ? Il eut la force de se lever tout à fait. Il s'approcha de la fenêtre, les bras tendus vers l'ombre, et celle-ci répéta « N'y va pas !» Et l'ombre sauta dans la chambre. Derrière son rideau, Françoise, éperdue, assistait à ce spectacle inimaginable. Cette monstruosité, cette hideur humaine dont la seule vue eût fait fuir d'épouvante les petits-enfants et accourir les gendarmes, serrée dans les bras de son mari. Quelle étreinte était celle-là ! Par quel mystère insondable son Didier, son époux, son héros, tenait-il sur son cœur cette brute redoutable qui venait le visiter par le chemin des voleurs et des assassins ? Un dernier jeu de la lumière fit surgir si tragiquement le masque effroyable du bandit que Françoise ouvrit la bouche pour crier son horreur. Mais l'horreur même étouffa son cri, et elle s'abattit sur le tapis. Elle n'avait pas perdu connaissance. Dans la pièce à côté, un sourd murmure attestait que la conversation continuait entre les deux amis. Mais elle n'entendait point les mots. Ses oreilles lui sonnaient un tintinnabulement annonciateur de la folie. Elle parvint à se traîner dans sa chambre et s'allongea sur sa couche. Dans le bureau, Chéri Bibi avait coupé court aux demandes d'explication de Didier. Il ne s'agissait point de savoir comment Chéri Bibi se trouvait là, mais ce qu'allait faire Pallas en face du danger qui le menaçait. Là, le bandit se heurta à un roc. Tout ce qu'il put dire à son Pallas pour le dissuader d'accepter le rendez-vous que lui assignait cyniquement à Rigonde ne changea pas la résolution de Didier. Celui-ci ne sortait pas de là. Il fallait essayer de traiter à l'amiable. Et ce n'est point la perspective que lui faisait entrevoir naïvement Chéri Bibi, lequel lui proposait de le débarrasser dans un délai assez court, et si c'était nécessaire, le soir même, des misérables qui le menaçaient, qui lui fait changer d'idée. En dépit de 10 ans de bagne, il avait du mal à entrer dans une conception aussi catégorique de la suppression de l'obstacle humain. Aussi ne se contenta-t-il pas de supplier son ancien compagnon de GN de ne point intervenir dans cette redoutable histoire, mais il le lui ordonna. À la première minute, il avait accueilli l'apparition quasi naturelle de Chéri Bibi comme un secours inespéré que le ciel lui envoyait dans son immense détresse. Mais une conversation de quelques minutes, où la simplicité du plan de son ami lui était apparue avec épouvante, lui avait fait presque regretter de retrouver, en une circonstance où tout pouvait peut-être encore être sauvé par la délicatesse des moyens, un défenseur aussi brutalement zélé, et pour lequel la vie humaine semblait compter si peu. Le voyant dans d'aussi piètres dispositions, Chéri Bibi eut honte pour lui de ce qu'il appelait son manque de courage, et, assez vexé, ne lui cacha pas plus longtemps qu'il avait déjà pris sur lui-même de désencombrer son chemin du plus vulgaire de ses ennemis. « Et de qui donc ?» demanda Didier avec angoisse. « Mais du caïd, l'homme dont on a trouvé le cadavre au Mont Boron, ça fait assez de bruit. C'est moi !» exprima Chéri Bibi avec candeur. Didier frissonna, se refusant cependant à comprendre tout à fait. « Mais nous y étions, ma femme et moi, ce soir-là, au Mont Boron, et près de l'endroit même. Justement, il vous empêchait de vous embrasser. Et tu l'as tué ? Ne te fais donc pas tant de bile, tu n'y es pour rien, toi.
Tout est de ma faute, calme-toi. Il a eu tort de glisser par-dessus le parapet. Il était déjà bien abîmé, va, quand je l'ai achevé pour qu'il ne t'embête pas.
Oh, c'est atroce! Mais non, faut rien exagérer. Et puis, tu sais, il n'était pas là dans de bonnes intentions.
Oh, chérie Bibi, ton amitié est redoutable.
De quoi?
Oui, mon amitié est redoutable, mais pas pour toi, j'espère. Tu ne sauras jamais tout ce qu'on a fait pour ta réussite et pour ton bonheur.
Si, je le sais, je te dois tout.
Je ne dis pas non. Aussi, puisque c'est moi qui l'ai fait, ton bonheur, je ne veux pas qu'on y touche, moi.
Alors, en des termes qui attestaient une certaine connaissance du beau monde, le forçat lui parla avec un attendrissement presque lyrique de la cérémonie du mariage à laquelle il avait assisté, d'assez loin pour n'être point reconnu, d'assez près pour surveiller les méchantes gens et se mettre, si c'était nécessaire, en travers de leurs desseins. Quand Didier connut de sa bouche qu'il s'était à nouveau échappé du bagne sur les pas du Parisien et de sa bande, et qu'il était accouru en Europe uniquement pour les surveiller et les empêcher de le joindre, et quand il sut que chérie Bibi avait amené, pour cette entreprise idéale et digne des plus belles fastes de l'amitié, Yo-Yo, transformé en chirurgien-dentiste, et quand il n'ignora plus la part que Monsieur Hilaire, à qui il devait déjà tant, prenait depuis quelques jours dans la garde que l'on montait autour de sa lune de miel, quand il lui fut révélé que le pêcheur, qui certains soirs l'avait pris, lui et sa femme, dans sa barque, n'était autre que chérie Bibi lui-même, toujours chérie Bibi, génie protecteur, divinité tutélaire, toujours agissante, tantôt furtive, tantôt foudroyante, Monsieur Daumont ne trouva point de terme pour exprimer sa surprise et sa reconnaissance, en même temps que sa stupéfaction consternée devant la preuve de tant de dangers encourus dans des instants où il les croyait à jamais écartés. Sa main serra celle du bandit en tremblant, et son émoi lui venait autant de sa gratitude que de la découverte qu'il faisait de l'abîme sur lequel il avait navigué dans la barque où il s'était cru parti pour s'y taire.
« Et de tout cela, tu n'aurais jamais rien su !»
reprit avec un soupir sublime le pauvre chéri Bibi.
« Si seulement ces-là m'avaient laissé 2 jours de plus !»
Monsieur Daumont comprit ce qu'un tel langage signifiait. Il en frémit. Quel entretien! Quelle rencontre! Avoir à soi cet ange, Françoise, qui ne vivait que de son amour, et à soi aussi cet échappé de l'enfer, chérie Bibi. Mais le forçat n'était point venu là pour recevoir les compliments de Pallas. Sitôt qu'il fut bien sûr qu'il n'arriverait pas à le persuader, il disparut brusquement. Le forçat repartit comme il était venu, par la fenêtre, par les toits, par les airs, qui roulaient de gros nuages lourds, parmi lesquels semblait rouler aussi le dos énorme de chérie Bibi. Chapitre 21. Suite de la villégiature de Monsieur Hilaire. Qui donc aurait pu dire que Monsieur Hilaire, qui conduisait cet après-midi une énorme limousine, n'était point le maître de cette magnifique voiture ? Certes, il n'avait point l'air d'un domestique. Du reste, M. Hilaire n'avait jamais eu l'air d'un domestique, même autant qu'il servait un certain marquis, qui le considérait lui-même plutôt comme un confident que comme un valet. Ce jour-là, M. Hilaire avait particulièrement soigné sa toilette d'homme du monde. Un complet à carreaux, des guêtres blanches, un feutre gris avec la valière bleue à petits pois blancs, lui donnait, en même temps qu'un nouvel air de jeunesse, une allure des plus distinguées. Il avait même une fleur à la boutonnière. Arrivé à la gare, il stoppa et sauta de son auto avec une désinvolture charmante. Il trouva le moyen, grâce à quelques pourboires, d'aller attendre le train de Paris sur les quais défendus à un vulgaire public. Comme toujours, le train de Paris était en retard. Monsieur Hilaire alluma un cigare et se promena les mains derrière le dos. Qui attendait-il donc ? Soyons assurés que s'il avait attendu Virginie, il ne se fût point si avancé en frais de toilette. En dépit de toutes les complications inattendues d'une villégiature qu'il avait espérée de tout repos, M. Hilaire était bien décidé à passer sur la Côte d'Azur quelques bonnes heures agréables. Le moment est peut-être venu de montrer M. Hilaire sous un jour qui n'est point tout à fait celui de la vertu. Assurément, M. Hilaire, qui avait été élevé à l'école de la plus austère morale en ce qui concerne les mœurs, et qui s'était nourri, dès la plus tendre enfance, des propos les plus purs de Chéri Bibi, lequel avait la haine non seulement du dévergondage, mais encore du manque de tenue avec les dames. Assurément, M. Hilaire eût été incapable de commettre dans le genre une mauvaise action. Et la candeur de Mademoiselle Zoé ne courait point trop de risques avec lui. Il avait longtemps traité cette petite en véritable gamine qu'elle était. Il ne se gênait pas, par exemple, pour traverser sa mansarde aux fins de quelque escapade nocturne qui ne portait de préjudice à personne, si l'on en excepte Virginie. Mais depuis quelque temps, cette effrontée bohémienne l'amusait prodigieusement. Elle l'amusait d'autant plus que Virginie l'ennuyait davantage. Madame Hilaire abusait vraiment du droit d'une honnête épouse à se montrer désagréable, et si M. Hilaire prenait tant de plaisir aux imaginations fantasques et aux réparties souvent cocasses de Mademoiselle Zoé, la faute en était pour beaucoup à Virginie, qui était d'un commerce par trop maussade. Si bien que le cœur de M. Hilaire, qui se détachait tous les jours un peu plus de celle-ci, se rapprochait, sans qu'il s'en défendît trop, un peu plus de celle-là. Si bien que ce n'était pas Virginie qui l'attendait par le train de Paris, mais Mademoiselle Zoé elle-même. Hélas, son malheur voulut qu'elles arrivassent toutes les deux. D'abord, il n'en vit qu'une, pour la bonne raison qu'elles n'avaient pas voyagé ensemble, et surtout que Mademoiselle Zoé, qui s'était offert carrément une première, ignorait qu'elle eût derrière elle sa chère patronne qui voyageait en seconde. Si M. Hilaire avait fait une toilette remarquable, Mademoiselle Zoé ne s'était pas moins mise en frais. Elle avait arboré, pour voyager, une petite robe rose et certains chapeaux qui n'avaient pas attendu Nice pour avoir leur succès. Si elle se jeta dans les bras de M. Hilaire, sitôt qu'elle l'aperçut, ce ne fut point par excès d'effronterie, ni manque d'innocence, mais son cœur débordait de reconnaissance pour celui qui venait de lui procurer une place de seconde femme de chambre chez une danseuse aussi célèbre que la Nina Noah, et dans un si beau pays. Inutile de dire qu'elle avait plaqué Virginie avec enthousiasme. Tout cela s'attestait par des embrassements qui faisaient rire M. Hilaire, et aussi quelques voyageurs qui ne pouvaient s'arracher à la contemplation de la robe rose et du chapeau de la jeune voyageuse. Et c'est dans le moment d'un si beau triomphe que l'on vit surgir, d'on ne sait où, et gesticulant comme une folle, une dame au corsage opulent qui se mit incontinent à casser son parapluie sur le dos de Mademoiselle Zoé et sur le dos de M. Hilaire. Celui-ci ne demanda pas son reste. Ayant reconnu d'où le coup venait, il se sauva avec une rapidité que les voyageurs qui se bousculaient à la sortie trouvèrent incivile. Il ne s'arrêta néanmoins que lorsqu'il fut hors de la gare, derrière son auto, à l'abri de laquelle il pouvait attendre les événements. Pour plus de sûreté, du reste, il en avait mis le moteur en marche. À sa grande stupéfaction, son attente ne fut pas longue. Il vit apparaître Mademoiselle Zoé au milieu d'un joyeux concours de populaire. Elle avait à la main quelques lambeaux de son chapeau auxquels il ne restait plus de plumes, et elle saignait du nez. Il ne se montra point tout d'abord, mais quand elle passa près de lui, tournant la tête de droite et de gauche dans le dessein de le découvrir évidemment, et quand il fut assuré que Virginie n'avait pas encore quitté la gare, il se montra tout à coup, la jeta plutôt qu'il ne l'installa dans sa voiture, sauta sur son siège et démarra en beauté, suivi des bravos et des acclamations d'un public en délire. Ce ne fut qu'assez loin, hors de la ville, qu'il se retourna pour demander à Zoé, par-dessus la glace baissée, ce qu'elle avait fait de sa femme. « Je lui ai flanqué une bonne peignée, » répondit la charmante enfant. « On nous a conduites toutes les deux dans le bureau du commissaire spécial. On a pris nos noms. Comme j'avais, moi, des papiers en règle, on m'a relâchée. Mais comme madame n'avait aucun papier, on l'a embarquée dans un train qui partait pour Paris. » « Et comment n'avait-elle pas de papier ?»« Parce que je les avais chipés avant mon départ. Tenez, les voici !» exprima doucement l'innocente en ouvrant son réticule. Monsieur Hilaire montra aussitôt une joie désordonnée et fit une embardée telle que mademoiselle Zoé l'engagea à ne point procurer sitôt à madame Hilaire la joie trop violente du veuvage. Sur quoi, M. Hilaire proposa à mademoiselle Zoé de venir s'asseoir sur le siège à son côté, ce qu'elle fit incontinent. « La patronne, lui dit Zoé, avait certainement eu vent de mon départ. »« Ne parlons plus d'elle, répliqua M. Hilaire. Souhaitons-lui bon voyage, et qu'il n'en soit plus question. » L'épicier portait encore à la joue gauche les traces du parapluie de madame Hilaire. Et cette blessure, si légère fût-elle, ne le disposait pas à plaindre beaucoup les tourments de Virginie. « Ma petite Zoé, tu peux être maintenant tranquille. Tu vas servir chez des maîtres puissants. Le célèbre docteur Ross va t'introduire chez la non moins célèbre Nina Noah, qui saura te garer mieux que moi, hélas, des extravagances de madame Hilaire. Et si, par hasard, il lui prenait fantaisie de revenir dans ce pays où elle n'a que faire, ces gens-là trouveront bien le moyen de nous en débarrasser tous les deux. » Ayant prononcé toutes ces paroles rassurantes, M. Hilaire et mademoiselle Zoé n'eurent plus qu'à admirer le paysage. Il était fort joli. La promenade qu'il faisait était en bordure de la mer, sur la route de Cannes. L'air était doux, bien que de gros nuages commençassent de monter à l'horizon, poussés par le vent d'ouest, ce qui, à l'ordinaire, présageait quelques méchantes perturbations atmosphériques pour la soirée prochaine. Mais les amoureux ne s'occupent que de l'heure qui passe. Monsieur Hilaire avait tout le ciel dans son cœur. Aussi, l'autre, avec ses nuages, ne l'intéressait guère. Auprès de Zoé, il oubliait tout, même les recommandations que son maître, M. de Saint-Ine, lui avait faites ce jour-là, d'être à 5 heures précises au coin de la rue Basse, dans la vieille ville, avec la limousine au volet de fer. Une pareille recommandation avait été portée tout de suite, naturellement, à la connaissance de M. Casimir, et M. Casimir avait lui aussi fait comprendre à M. Hilaire qu'il ne devait pour rien au monde manquer à ce rendez-vous fixé. M. Casimir avait même ajouté « Probable que j'aurai moi-même besoin d'une auto. »« Ce M. Saint-Ine est bien aimable de me prêter la sienne. » Mais de tels propos, qui avaient sur le coup fort intéressé la ficelle, n'étaient plus à cette heure que de la fumée dans sa cervelle d'amoureux. Les joues de M. Hilaire se rosirent sous un regard plein de malice et de reconnaissance que lui lança la charmante Zoé. Il sentait son genou près du sien. Cela donnait des troubles à sa direction. « Comme vous conduisez bien, M. Hilaire, » disait-elle, « vous m'apprendrez, n'est-ce pas ?»« Mais comment donc, quand vous voudrez. La voiture n'est pas à moi. »« Vous êtes rigolo, M. Hilaire. » Avec vous, on ne s'ennuie jamais. Voulez-vous un pruneau ? Comment ? Tu as apporté des pruneaux ? J'en ai rempli mon sac de voyage. Tenez, reconnaissez-vous vos pruneaux ? Les vrais, les seuls, les pruneaux de l'épicerie moderne et des deux mondes réunis. Mademoiselle Zoé ayant ouvert sa petite valise, Monsieur Hilaire put voir qu'elle contenait plusieurs sacs à la marque de la maison, et ils étaient tous pleins de pruneaux. Cette attention attendrit Monsieur Hilaire au-delà de toute expression. Ses yeux en devinrent humides, et il ne put que dire à la charmante enfant « Tiens, ma petite Zoé, il faut que je t'embrasse !» Si bien qu'ils s'embrassèrent en mangeant des pruneaux. Or, dans le même moment, il y eut un grand tumulte sur leur droite. C'était le train de Paris qui remontait sur Marseille, car à cet endroit, la voie suit pendant des kilomètres la route en bordure de la mer. Mais le train faisait moins de bruit en passant que certaines dames de notre connaissance qui se trouvaient à une portière et qui littéralement s'étaient mises à hurler. La fureur de ces invectives dominait de beaucoup le ramage des roues et la démence de ses gestes épouvantait le garde-voie.
« Virginie, c'est Virginie !»« Madame, c'est madame !»
Oui, c'était madame. Et dans quel état ? Il faut se rendre compte de ce que la vitesse de l'auto égalait celle du train, si bien que depuis un instant, il voyageait de compagnie. Et que la dame de la portière n'avait pas perdu une ligne de ce qui se passait dans la voiture. Elle avait reconnu Monsieur Hilaire. Elle avait reconnu Zoé. Elle avait reconnu ses pruneaux. L'indignation la projetait hors de la portière. Et s'il ne s'était trouvé dans le compartiment des personnes charitables pour la retenir par ses jupes, on aurait eu certainement à déplorer un affreux accident.
« Prends garde, Virginie, tu vas te faire écraser !»
lui cria ce bon monsieur Hilaire, qui, oubliant toute rancune, lui conseillait de se réserver pour un moins cruel trépas.
« Voulez-vous un pruneau, madame ?»
lui demandait Zoé en lui tendant un sac, où la malheureuse pouvait reconnaître, à ne s'y point tromper, les couleurs et la marque de l'épicerie moderne.
« Messieurs et dames, c'est mon mari avec ma commise, c'est du gibier d'échafaud !»
Cette dernière invective froissa beaucoup Monsieur Hilaire, qui ralentit sa vitesse, cependant que Mademoiselle Zoé jetait au vent du train qui les dépassait.
« Amuse-toi bien, ma chérie !»«
Maintenant, nous pouvons rentrer à Nice, » exprima Monsieur Hilaire. « Nous sommes sûrs de ne pas l'y trouver. » Mais quand elle reviendra, qu'est-ce que je vais prendre ? Cette perspective du retour de Madame Hilaire fit que, toute son exaltation partie, Monsieur Hilaire tomba dans une soudaine mélancolie. Il se rappela aussitôt, dans sa tristesse, la fidèle recommandation de Monsieur de Saint-Yne et de Chéri Bibi. Il jura comme un portefaix et donna toute sa vitesse.
« Comme vous voilà drôle tout d'un coup !» lui dit Zoé. « Qu'est-ce qu'il vous arrive ?»«
Rien, je suis en retard. »«
Dites donc, ne vous cassez pas la figure. Quand est-ce que je rentre en place ?»«
Demain. »«
Où me conduisez-vous ?»«
À l'hôtel, où je t'ai retenu une chambre d'avance. » Il ne pouvait décemment pas avouer à Zoé qu'ayant conservé pour lui une chambre en ville, il lui avait d'abord retenu une chambre dans son propre hôtel. Mais que Chéri Bibi, mis par hasard au courant, était rentré dans une colère épouvantable en s'imaginant que Monsieur Hilaire avait pu avoir des idées contraires aux bonnes mœurs. En vain, Monsieur Hilaire avait-il protesté avec indignation, affirmant que sa sympathie pour sa commise était on ne peut plus platonique, et qu'il n'avait échangé avec elle jusqu'à ce jour que des pruneaux. Il ne faut qu'une fois, avait répliqué tout net Chéri Bibi en roulant ses gros yeux.
« Suffisit !»«
C'est dans cet hôtel-là que vous habitez ?» demanda Zoé.
« Non !»
répondit sans plus Monsieur Hilaire en rougissant. Chapitre 22 Le magasin de Monsieur Toulouse. Pour se rendre au magasin de Monsieur Toulouse, Didier n'avait pas eu besoin de prendre de renseignements. Nous avons dit par quelle sorte de fatalité il avait été arrêté, l'avant-veille, devant la bizarre enseigne et la sordide maison. Persuadé comme il l'était que les maîtres chanteurs n'avaient aucun intérêt à lui faire un mauvais parti, et prêt à consentir personnellement tous les sacrifices possibles, ce qui lui donnerait au moins le temps de réfléchir et de prendre des décisions plus graves, il n'était nullement effrayé quant aux suites immédiates de sa démarche. Il comprenait très bien que M. de Saint-Yne, pour de certaines besognes dans lesquelles il était obligé d'entrer en composition avec un fric-frac, préféra de beaucoup que l'œuvre s'accomplît dans la pénombre d'une arrière-boutique. Tout de même, M. d'Aumont était armé comme il convient. Il sentait ses forces revenues. Nous avons pu juger au cours de ce récit qu'elles n'étaient pas ordinaires. C'est donc d'un pas assuré qu'il s'était avancé dans l'enchevêtrement des rues étroites de la vieille ville et qu'il avait été droit à la devanture de M. Toulouse. Le soir commençait à tomber. Du reste, il fait nuit de très bonne heure entre ces hautes bâtisses, dans ces ruelles où deux charrettes ne sauraient se rencontrer. Des lueurs commençaient à piquer les vitres des boutiques. Au fond de l'ombre de la boutique de M. Toulouse, il y avait une chandelle, à la lueur de laquelle Didier reconnut Fric-Frac, accroupi derrière son comptoir, comme un chien de garde dans sa niche. Aussitôt qu'il aperçut M. d'Aumont, le maître de séance avança, avec force salutation, vers le visiteur, lui souhaita la bienvenue sous son toit, qui était tout à fait honoré d'abriter un héros comme M. Didier d'Aumont, et lui demanda la permission, à cause des courants d'air, de fermer sa porte. Didier ne répondit rien d'abord à cet ignoble préambule. Il regarda attentivement autour de lui les hardes qui encombraient le taudis, ne vit rien de suspect, et laissa M. Toulouse pousser ses verrous. « Comme ça, personne ne viendra nous déranger !» expliquait le marchand d'habits. Si Fric-Frac avait pu assister au mouvement singulier qui se produisait alors dans la rue, peut-être n'eût-il point émis un avis aussi catégorique. En effet, des forces de police avaient entouré la maison. Nous pouvons ajouter qu'elles gardaient les rues adjacentes. Depuis quelque temps, des vols, des cambriolages, des tentatives d'assassinat se succédaient, toujours commis par la même bande. On savait que les chefs de cette bande avaient leur refuge dans la vieille ville, où ils trouvaient de nombreux complices pour les dérober aux recherches de la police. L'affaire du caïd avait été classée dans la même série. Un agent de la sûreté, qui l'avait remarqué plus d'une fois traînant les rues de Nice, ses tapis sur l'épaule, avait reconnu son cadavre et s'était demandé ce qu'étaient devenus les tapis, dont le moricaud ne se séparait jamais. Il en avait découvert d'identiques dans la boutique de M. Toulouse. Celle-ci fut surveillée. Les allures de Fric-Frac parurent suspectes. La nuit venue, il recevait chez lui des gens qui s'y glissaient avec précaution. Bref, on en avait conclu qu'il ne fallait pas chercher ailleurs le repère de la bande et que si l'on organisait une souricière, on pourrait pincer tous les affiliés en une seule opération. Cette souricière avait donc été tendue le soir même qui nous occupe. Il avait été ordonné qu'on laisserait pénétrer chez M. Toulouse tous les visiteurs qui se présenteraient et qu'on les cueillerait en douceur à la sortie. Il est probable que ces messieurs de la police, cet après-midi-là, avaient déjà vu passer quelques ombres intéressantes, mais Didier excita plus spécialement leur curiosité. Et cela à cause du soin avec lequel il s'était enveloppé d'un gros par-dessus au col relevé et de l'impossibilité où ils avaient été d'apercevoir même le bout de son nez sous les bords rabattus de son chapeau de feutre. Nous devons dire, en effet, que si Didier était venu sans effroi à ce sombre rendez-vous, il ne tenait nullement à ce qu'on le reconnût pénétrant dans cet ignoble magasin de la vieille ville. Aussi avait-il choisi des accessoires, manteaux et chapeaux, sous lesquels il pouvait se croire à l'abri. Quand Fric-Frac eut fini de tirer ses verrous, Didier dit d'une voix très calme « Vous savez que je suis armé, et qu'au moindre geste qui me déplaît, je vous abats tous comme des chiens. »
Oh, mon cher capitaine, quelle mauvaise opinion vous avez conçue de nous depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Vous êtes armé. Eh bien, moi, je ne le suis pas. Rien dans les mains, rien dans les poches. Et je puis vous assurer que mes camarades ne le sont point davantage que moi. Mais, mon cher capitaine, il faut que vous soyez bien persuadé que vous êtes ici chez des amis. Non, non, monsieur Daumont, vous n'avez point dans tout Nice, et même ailleurs, de meilleurs amis que nous. Où sont-ils ? Demanda Didier. Tâchons que les choses ne traînent point, je ne suis pas ici pour mon plaisir. Si vous y êtes venu pour le nôtre, je crois pouvoir vous promettre que vous vous en irez d'ici le cœur léger, l'âme en paix et sans remords. Quand on fait ce qu'on peut dans la vie, on fait ce qu'on doit. Nous ne vous demanderons rien que vous ne puissiez pas, mon cher capitaine. Voulez-vous me faire l'honneur de passer dans mon arrière-boutique ? C'est là que ces messieurs vous attendent. Passe devant. Fric-Frac s'inclina et passa devant. Didier suivit, la main dans la poche de son pardessus, sur son revolver, prêt à tout. Il aperçut tout de suite, assis devant une table, deux personnages qu'il reconnut. C'était d'abord le Parisien, c'est-à-dire l'homme qui l'avait si brutalement malmené l'avant-veille au soir, celui qui poursuivait Gisèle et qui se faisait appeler Monsieur de Saint-Yne. C'était enfin le bêcheur, habillé de noir, sérieux comme un clerc de notaire, et qui avait devant lui une grande serviette de maroquin. Monsieur de Saint-Yne s'était levé et indiquait en face de lui, de l'autre côté de la table, une chaise, priant Monsieur Daumont de bien vouloir s'y asseoir. Le bêcheur avait salué de la tête, ouvert incontinent sa serviette et en tiré des dossiers. Sur la table, il y avait du papier, un encrier, un porte-plume. « Je m'assoirai lorsque Fric-Frac, qui se tient derrière moi, sera à côté de vous, de l'autre côté de la table, » dit Monsieur Daumont, qui ne paraissait nullement ému. « Mon Dieu, Monsieur Daumont, je m'appelle Monsieur Toulouse, je vous prie de ne pas l'oublier. Moyennant quoi, il n'est rien que Monsieur Toulouse ne fasse pour faire plaisir à Monsieur Daumont. » Et Fric-Frac passa de l'autre côté de la table. Alors Didier s'assit et posa son revolver devant lui. Monsieur de Saint-Yne sourit, le bêcheur dit « Je vous assure, Monsieur Daumont, que cet encrier nous suffira. » « Je vous écoute, » fit Didier en jetant autour de lui un coup d'œil rapide. Il était placé de telle sorte qu'il n'avait rien à redouter par derrière. La pièce où il se trouvait était, comme la boutique elle-même, encombrée de tout ce qui peut constituer le « décrochez-moi ça ». Cependant, Didier n'avait pas à craindre que quelque acolyte fût caché sous les défroques. Il remarqua qu'elles étaient, pour la plupart, suspendues au plafond sur des tringles de fer. Enfin, il n'était pas admissible qu'Arigonde et sa bande eussent mis quelque autre misérable dans le secret. L'arrière-boutique donnait sur une étroite cour vitrée dont on apercevait les hauts murs. Une porte à vasistas donnait sur une autre cour. Les verrous en étaient tirés. C'était par le vasistas que Didier apercevait le toit vitré de la cour. L'arrière-boutique communiquait avec le magasin par une ouverture sans porte, mais comme les deux pièces n'étaient pas de niveau, on descendait dans le magasin par un escalier de trois vieilles marches. Fric-Frac s'était assis à la droite du Parisien, qui avait le bêcheur à sa gauche. On eût dit un tribunal. Et ce fut naturellement le président, Monsieur de Saint-Yne, qui prit la parole. « Nous ne prononcerons pas de mots inutiles, » annonça-t-il. « Je vais au fait immédiatement. » Quand Monsieur Daumont a quitté son entreprise aurifère de la Guyane, celle-ci était particulièrement prospère, ce qui lui a permis d'emporter en Europe environ 2 millions de francs de poudre d'or. En France, Monsieur Daumont a pu faire un riche mariage. Madame Daumont a apporté en dot, d'abord une fortune personnelle qui lui venait de sa grand-tante maternelle, fortune évaluée à 700 000 francs. « Pardon ? » interrompit le bêcheur. « Pardon ? Il y a là une petite erreur.
D'abord, cette fortune personnelle est évaluée exactement à... » Il feuilleta un dossier, s'arrêta à un chiffre. « 745 000 francs. » Mais cette fortune venait à Madame Daumont pour 600 000 francs de sa grand-tante maternelle, qui avait déshérité la mère de Madame Daumont, Madame de la Boulet, douairière, à cause de sa conduite qu'elle réprouvait. À ce chiffre sont venus s'ajouter 145 000 francs, hérités par Mademoiselle de la Boulet d'un frère de Monsieur de la Boulet, qui a laissé à Monsieur de la Boulet le restant de sa fortune, dans les 45 000 francs. Exactement, nouvelle recherche dans un nouveau dossier, 432 800 francs, tous frais payés, lesquels 432 800 francs et les intérêts produits pendant 5 ans, dont il ne serait pas difficile d'établir le chiffre, ont été donnés personnellement à sa fille par M. de la Boulet, ce qui fait un total de 1 177 800 francs de dot, sans compter les intérêts sudis. Voilà une belle corbeille de noces, reprit M. de Saint-Yne, et nous n'avons parlé de la fortune de Madame Daumont que pour mémoire, et pour qu'il soit bien établi que M. Daumont ne sera pas sur la paille le jour prochain où il aura donné les 2 millions qui lui sont propres à d'anciens camarades de chantier qui ont travaillé avec lui de longues années, et sans l'appui dévoué et infiniment discret desquels il ne serait rien aujourd'hui. » Ayant dit, M. de Saint-Yne se pencha vers Didier, et comme celui-ci gardait un sombre silence, il ajouta « Je ne sais pas si je me suis fait suffisamment comprendre. » « Oui, » finit par répondre M. Daumont, « malheureusement, c'est beaucoup trop cher. » Il y eut un silence. Ce fut Ficfrac qui le rompit en disant « Il fallait s'y attendre, il va y arder. » « Non, » reprit M. de Saint-Yne, « M. Daumont ne l'y ardera pas. Il réfléchira que ça aurait pu être encore plus cher. Il appréciera la délicatesse dont nous avons fait preuve en lui permettant de s'acquitter avec nous sans avoir à toucher à la fortune de sa femme. » La fortune de Mademoiselle de la Boulet, il n'osa dire de Madame Daumont, ne m'appartient pas. Je ne toucherai pas à un sou de la fortune de Mademoiselle de la Boulet, déclara Didier. Que Monsieur Daumont se calme, puisqu'il n'est pas question de la fortune de sa femme, et que nous ne lui réclamons rien de ce chef, répliqua Monsieur de Saint-Yne. On me permettra tout de même de faire remarquer, interrompit le bêcheur, que M. Daumont a tort de dire que la fortune de sa femme ne lui appartient pas. Elle est à lui aussi bien qu'à elle. Il peut en disposer entièrement, car M. et Mme Daumont sont mariés sous le régime de la communauté légale. M. Daumont voulait que cette communauté fût réduite aux acquêts, mais Mme Daumont, avec un désintéressement que l'on ne saurait trop louer, a exigé qu'il n'en fût rien, et M. de la Boulet lui-même a dû s'incliner. Du reste, il l'a fait d'autant plus facilement qu'il savait avoir affaire à un parfait honnête homme qui saurait gérer avec soin et économie les intérêts de la communauté. « Bavardage !» grogna Fric-Frac. « Faudrait que M. Daumont se décide. Est-ce oui? Est-ce non ?» Didier dit « Je suis prêt à vous donner tout ce qui m'appartient. » Les trois autres, à ces paroles, tressaillirent déjà d'une parfaite allégresse, quand M. Daumont se prit à ajouter. « Malheureusement, pour vos prétentions, que je trouve énormes, je ne possède plus que 150 000 francs. » Un peu interloqués par cette déclaration inattendue, les trois compères finirent par rire. « Elle est bien bonne !» explosa Fric-Frac. « À qui ferez-vous croire une bourde pareille ?» M. de Saint-Yne s'interposa. « Je croyais pourtant, » fit-il, m'être exprimé avec une certaine clarté. 2 millions à nous, l'honneur, la gloire, le bonheur, la sécurité, l'amour et encore 1 million à vous. 1 177 800 francs, corrigea le bêcheur. Il me semble qu'avec le lot qu'on vous laisse, vous n'êtes pas à plaindre. »
« Nous sommes trop bons, » affirma Monsieur Toulouse, qui commençait à s'énerver et qui donnait un grand coup de poing sur la table. « Vous allez voir qu'il va falloir employer les grands moyens. »
Monsieur de Saint-Yne posa sa main sur le bras de Monsieur Toulouse.
« Silence, » ordonna-t-il. « Nous ne sommes ici ni pour crier, ni pour plaisanter. »
Il prononça ce dernier mot en se retournant sur Didier.
« Je vous prie, monsieur, de nous répondre sérieusement. »
« Je vous affirme, le plus sérieusement du monde, qu'il ne me reste personnellement que 150 000 francs. J'ai donné le reste à l'État. »
Cette fois, ils le regardèrent dans un silence effaré.
M. Daumont n'avait certes pas l'air de plaisanter. Cependant, Fric Frac ne put s'empêcher de frapper à nouveau la table de son poing rageur.
« Il se peine aux têtes, ça n'est pas possible !»«
Moi, je n'en crois rien !» déclara le bêcheur avec un mince sourire. Mais le Parisien fit
« Il en est bien capable !»«
Vous pourrez en avoir la preuve quand vous voudrez !» reprit Didier impassible. Alors, le bêcheur et Fric Frac s'unirent dans une même indignation. Ils se rappelaient ce que le Parisien leur avait dit du caractère de Pallas et des coups de tête dont il était capable.
« Ah, oh, le cochon ! S'il a fait cela, il nous a volés !»
gémit M. Toulouse. Le bêcheur se leva, et, perdant toute retenue, il se mit à tutoyer M. Daumont comme autrefois il tutoyait Pallas.
« Si tu crois qu'on est venu de si loin pour 150 000 francs !»«
50 000 francs !» reprit Fric Frac, qui savait compter au moins aussi bien que le bêcheur.
« Mais on croit rêver !»«
Soit !» fit tout à coup le Parisien qui avait réfléchi. « On contrôlera, et tant pis pour toi si tu nous as menti.
Et tant pis pour toi aussi si tu as dit vrai.
Pour sûr qu'il nous compte des flambeaux !»«
Silence !» ordonna le Parisien. « C'est son affaire. La nôtre, après tout, est de toucher. Si tu n'as plus le sou personnellement... »«
Eh, parbleu, qu'il nous donne la fortange de sa chenille !»
La fortune de sa femme.
Didier se leva, pâle comme un mort.
« Où que tu vas ? » lui crièrent-ils.
« Je m'en vais, parce que je n'ai plus rien à vous dire. Mes 150 000 francs sont à vous. C'est à prendre ou à laisser. Vous ne pourrez me dénoncer sans vous perdre vous-même. Vous n'aurez pas un sou de plus. Vous réfléchirez. Je ne tiens pas à la vie. Vous aurez ces 150 000 francs-là, ou rien du tout. »
« Assieds-toi, Pallas, et raisonnons un peu. Ce serait dommage pour tout le monde de nous quitter comme ça. »
repartit M. de Saint-Yne. Maintenant, ces messieurs ne posaient plus. Ils se laissaient aller à leur naturel, celui que le bagne leur avait donné pendant plusieurs lustres. Ils parlaient argot, et ils le tutoyaient. Ils étaient redevenus des camarades, prêts à s'entendre ou à se crever. Il l'appelait à nouveau Pallas. Pallas était resté debout.
« Tu n'as pas encore compris une chose, Pallas. C'est que nous ne voulons pas te faire chanter. Un chantage, ça n'en finit plus. Si nous acceptions tes 150 000 francs, nous en aurions pour 3 mois, et ça recommencerait. On ne peut rien faire avec 150 000 francs à 3. Il n'y a même pas de quoi faire un seul honnête homme. Mais si tu es raisonnable, tu nous sortiras une bonne fois de la mouise. Ce que tu as, tant par ton mariage qu'autrement, nous te demandons de le partager avec nous.
Il faut qu'il nous donne 1 000 000, et il n'entendra jamais plus parler de nous. Je m'y engage !»
proclama Fric Frac. Et il leva la main, et il cracha par terre.
Le bêcheur prit à son tour la parole. « J'ai ici la liste des titres apportés par Madame Daumont. Il y en a un gros paquet, qui peut être bazardé tout de suite, et les autres ne présenteront pas de grosses difficultés. Pallas est libre de faire ce qu'il veut de ces titres-là. Sa signature suffira. Il n'a pas besoin de donner d'explications, et s'il veut en fournir, c'est bien simple. Il y a des titres qui ont remonté, il en profite pour les vendre. Il y en a qui baissent, il s'en débarrasse avant qu'il soit réduit à rien. C'est lui qui a la gérance de la fortune. C'est son devoir de faire du remploi. Je me charge, moi, du remploi. Il n'a qu'à donner sa signature. il verra quel homme d'affaires je suis. Madame d'Aumont ne se doutera de rien. On vous laisse les propriétés, la terre, et il y a encore l'héritage du papa beau-père. T'es pas à plaindre. Seulement, il faut t'asseoir, mon vieux, et prendre une plume. Nous avons déjà trop bavardé. Le temps passe et nous n'avons encore rien fait de propre. » Ils regardèrent tous trois Didier, qui était toujours debout, très pâle, les yeux mi-clos, son revolver à la main. Ils ne craignaient pas son rigolo. Ils savaient bien que cet homme était incapable de faire trois cadavres. Ce n'était pas un chéri bibi, celui-là. Et puis ce n'était pas un moyen de fuir le scandale que de s'en aller avec trois cadavres derrière soi. Et puis, il ne se serait pas laissé faire, on pense bien. Non, ce qu'il redoutait maintenant, en voyant cet homme si pâle, en dévisageant ce secret désespoir auquel il l'avait accudé, c'était que Pallas n'usât de son arme contre lui-même. Ma foi, il avait bien l'air d'un homme qui allait se tuer. Ils saisirent cela d'instinct, et Fric-Frac et le bêcheur n'eurent point besoin du coup d'œil rapide de M. Saint-Yne pour le comprendre. M. de Saint-Yne fit aussitôt, d'un air bon enfant, « Au fond, il suffit que nous soyons d'accord, en principe. Nous ne sommes pas à un jour près. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui vis-à-vis les uns des autres sera la même demain. » Et nous disposons toujours des mêmes armes pour la faire cesser, si nous voyons qu'elle se prolonge. Que M. d'Aumont montre de la bonne volonté, et il n'y aura rien de cassé. Sans doute nous ne pouvons sans dommage dénoncer M. d'Aumont à la police, mais il ne s'agit pas de la police. L'idée que Mme d'Aumont peut rester longtemps encore, peut-être toujours, cela dépend de lui, ignorante de choses qu'elle n'a pas besoin de connaître, activera la résolution de notre ancien compagnon. Que M. d'Aumont prenne déjà les dispositions nécessaires au transfert des 150 000 francs qu'il veut bien nous abandonner, et nous reparlerons du reste dans 8 jours. » Didier se raccrocha à l'espoir suprême d'une entente possible. « Il faut, dit-il, que je rentre chez moi maintenant. Je ne reviendrai plus ici. Je me rencontrerai avec M. de Saint-Yne, un soir que je lui ferai savoir, dans un endroit convenable et discret. Il recevra un avertissement ici. Dans 4 jours, nous nous serons définitivement entendus ou nous reprendrons chacun notre liberté. » M. de Saint-Yne avait jeté un nouveau coup d'œil à ses acolytes. « Eh bien, c'est entendu, dit-il, et puissent ces 4 jours de réflexion t'apporter un bon conseil. Au revoir, Pallas. Va ouvrir la porte de la rue, monsieur Toulouse. » Fric-Frac descendit dans le magasin. Didier le suivit. Le Parisien souffla au bêcheur « Les grands moyens !» Le bêcheur n'eut que le bras à étendre et à appuyer la main contre le mur pour que, au moment même où Didier pesait de tout son poids sur les marches du petit escalier qui descendait au magasin, celle-ci s'effondrasse. Didier poussa un cri, leva inconsciemment les bras en l'air et tomba. Les 3 autres étaient déjà sur lui. Son revolver avait roulé sur le pavé du magasin. Il était désarmé, et dans la situation où il se trouvait, presque dans l'impossibilité de secouer la grappe humaine qui l'étouffait. Alors il fit entendre un sourd rugissement, auquel les autres répondirent par de hideux éclats de rire. Mais voilà qu'en 1 seconde, la petite fête prit une autre tournure. Au gémissement de Didier répondit une sourde clameur mêlée à un terrible fracas. Sous un poids énorme, le toit de verre de la courette se brisait et la porte qui faisait communiquer cette cour avec l'arrière-boutique était défoncée du coup. Une forme humaine venait de rouler jusqu'au pied des bandits. Tous 3 s'étaient redressés, lâchant leur proie, et avait jeté le même cri. Chéri Bibi! Entrepris par une invincible épouvante, ils eurent un mouvement de recul. Mais voyant Chéri Bibi toujours affalé, ils comprirent qu'il était grièvement blessé. Alors, ils bondirent sur lui, et le Parisien lui déchargea son revolver à bout portant dans la poitrine. Mais Chéri Bibi avait saisi l'arme. et les balles allèrent frapper le mur après lui avoir éraflé la main, qui se mit à saigner abondamment. Les misérables étaient sur lui comme à la curée, redoublant de haine pour ce monstre qui venait jusque chez eux se mêler de leurs affaires. Ils allaient peut-être le mettre en morceaux, car Pallas, singulièrement coincé dans le trou de l'escalier, essayait en vain de se dégager, quand il y eut des cris dans la rue. La porte du magasin sauta, des policiers se précipitèrent. Le Parisien, Fric-Frac et le bêcheur, au premier coup frappé contre la devanture, s'étaient jetés au fond de la cour et se tenaient dans un escalier obscur par lequel, en tout état de cause, ils avaient dû préparer leur fuite. Les policiers s'étaient élancés sur leurs pas, passant devant les deux corps étendus, sans plus s'en préoccuper pour le moment. Chéri Bibi et Pallas restèrent seuls un instant. On entendait l'appel des policiers dans les couloirs, les escaliers et jusque dans la rue. Chéri Bibi se souleva vers Pallas, essaya de se remettre sur ses jambes, mais il devait avoir un pied cassé, car il retomba en grondant « Fatalitas, j'ai une patte molle !»